Donc, bonjour tout le monde, c'est une joie en tout cas d'être parmi vous avec Brigitte. La fois dernière, oui, j'étais en visio de Escalquins, là où nous habitons, à 10 km de Toulouse. Et puis donc, je suis Patrick Saporito, je suis ancien à l'église baptiste de Toulouse Métropole. Et puis, je suis, on peut dire, prédicateur itinérant, je tourne parfois à l'église de Figeac. Vous faites aussi partie des églises où je tourne aussi. Et puis j'ai travaillé avec l'association Évangile en France, l'AEE, avec qui je collabore encore. Pour former les moniteurs, pour faire des chants. Il y a encore bien du travail à faire. Voilà. Donc on est content ce matin d'être là et avec vous. Voilà. Donc Brigitte m'a donné un témoignage. C'était avant qu'on soit mariés. Elle était dans une étude biblique. Chez une famille africaine. Il y avait une toute jeune maman, elle n'avait jamais été maman, et elle était complètement désemparée parce que son bébé pleurait, et elle n'arrivait pas à le calmer. Et bien sûr, c'était gênant en pleine réunion. Et elle-même, elle s'était mise à pleurer tout autant. Et elle a passé le bébé à une jeune fille qui a voulu lui prendre, rien n'y a fait. Le bébé pleurait toujours, jusqu'à ce que le bébé a fait le tour de bras en bras, jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans les bras d'une dame âgée, qui a été maman, c'est ça. Et puis le bébé, au son de sa voix, il s'est calmé. Elle a su le prendre, elle a su le poser sur ses genoux, les jambes tendues, et tout en lui parlant avec douceur, et le bébé s'est calmé aussitôt. Alors c'est un bel exemple de solidarité toute féminine, on peut dire, entre des femmes qui se comprennent, et d'autant plus celles qui ont fait l'expérience de la maternité et qui ne sont pas forcément de la même génération. Alors, est-ce que c'est la maternité qui crée cette complicité toute féminine? Et est-ce que la complicité entre hommes est tout aussi forte? Je laisse la question à chacun de se prononcer. En tout cas, dans la Bible, il y a deux proches parentes qui sont enceintes toutes les deux, mais de deux générations différentes, et qui vont vivre une complicité unique. Et donc, peut-être vous avez compris déjà de qui il s'agit. Je vous invite à lire ce dernier dimanche avant Noël, dans ce récit que nous connaissons bien dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26. Et je lirai le texte en deux fois. Pour le moment, on va lire du verset 26 au 45, et nous lirons après, à partir du verset 46. Voilà ce beau cantique de Marie, après. Voilà, Luc 1, verset 26, à partir du verset 26. Et je vais lire. Luc 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de David, de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Jusqu'ici, c'est la parole de Dieu pour le moment. On continuera après. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces récits, Seigneur, que nous ne lassons pas de relire, Seigneur, qui est le récit de ta naissance et de ce qui a précédé ta naissance. Et Seigneur, que nous vivions cette joie, Seigneur, en toi, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors, la foi personnelle engendre la joie communautaire. La foi personnelle va engendrer la joie en Église, la joie communautaire. Alors, comment cela ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de développer. Donc, dans ce message, en trois parties. Premièrement, eh bien, Dieu se révèle et il se révèle aux humbles et il les visite. Dieu se révèle aux humbles. Deuxièmement, nous verrons que la foi, elle est agissante et elle rassemble les humbles. Et troisièmement, nous verrons que la foi partagée, eh bien, elle fait naître la louange à Dieu, la joie. C'est ce qui ressort en tout cas de ce texte. Alors, qui sont les intervenants dans ce récit ? Eh bien, il y a l'ange Gabriel et deux femmes. Premièrement, Marie, une jeune vierge qui est de la tribu de Juda, de condition modeste, malgré le fait qu'elle descende des rois de Juda. Hein, dans sa généalogie, eh bien, ses ancêtres étaient les rois de Juda. Et Marie est fiancée à Joseph. Ils ne sont pas encore mariés. Et puis, Élisabeth, donc une parente âgée, cette fois, une parente de Marie, qui est enceinte elle aussi, depuis 6 mois. Et c'est là donc que commence notre récit. À ce moment-là, en tout cas. Alors voyons comment Dieu se révèle aux humbles et les visite et leur rend visite. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative de visiter les humains selon son plan. Et il envoie son ange vers Marie. Il s'agit de l'ange Gabriel. Alors cet ange-là, eh bien, nous savons que c'est un ange de haut rang. Et qui se tient dans la présence de Dieu. Verset 19, hein, il se tient dans la présence de Dieu. Et Dieu l'avait déjà envoyé vers Zacharie, donc le mari d'Élisabeth, pour lui annoncer qu'Élisabeth serait enceinte. Enceinte de Jean-Baptiste. Et voici donc l'ange Gabriel devant Marie. Et l'ange Gabriel, c'est... Voilà, il est missionnaire, il est au clair sur sa mission. Il vient porter un message de la part de Dieu. Et le voilà donc devant Marie. Marie, devant qui ? Eh bien, il n'a pas adoré Marie. Il ne l'a pas priée non plus. Il l'a juste salué, joyeusement. Le mot veut dire vraiment salutation joyeuse. Verset 28, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et le verset suivant, verset 29, nous dit que Marie fut troublée par cette salutation et se demandait ce que signifiait cette salutation. Et on peut la comprendre, même si on n'a pas nous-mêmes rencontré un ange, on ne rencontre pas un ange tous les jours, et qui plus est, un ange de haut rang. Et qui prend l'initiative de vous saluer. Comment est-ce que nous, on aurait réagi ? Alors, les anges, eh bien, c'est frappant de voir le rôle des anges pour préparer et annoncer la venue de Jésus. On connaît tous les récits, n'est-ce pas ? Mais à chaque fois, eh bien, l'ange a eu la même expression, « ne crains pas ». Alors, il l'a eu pour Zacharie, en Luc 1, 13. Il l'a eu pour Joseph, le fiancé de Marie, en Matthieu 1, 20. Il l'a eu pour les bergers, en Luc 2, 10. Tous ont été visités par des anges. Et à chaque fois, ne crains pas. Alors, on ne s'approche pas de Dieu comme ça, n'est-ce pas ? Il y a des raisons d'avoir peur quand on est visité comme ça, par un ange. Envoyé par Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Il est séparé du mal. Et vous remarquerez que dans la Bible, saint est le seul attribut de Dieu qui soit répété 3 fois. En Ésaïe 6, 3, nous pouvons lire « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Et on ne trouve pas l'expression « juste, juste, juste est l'Éternel des armées », même si bien sûr Dieu est juste. On trouve cette expression 3 fois saint, seulement pour l'attribut saint. Oui, Dieu est saint. Et le message de Noël, eh bien, c'est Dieu qui vient nous visiter et qui nous dit à chacun, ne crains pas. Ce message se veut rassurant. Marie, elle fut d'abord troublée par la visite de l'ange et elle fut rassurée. Elle fut rassurée par l'ange qui l'appelle par son prénom. Verset 30, l'ange lui dit, Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Alors, la visite de l'ange à Marie, on peut se demander pourquoi Marie, pourquoi elle ? En fait, la visite de l'ange à Marie ne dépend pas du mérite de Marie, mais seulement du choix de Dieu. Qui lui a fait grâce ? Car tu as trouvé grâce devant Dieu, lui dit l'ange. Et le mot grâce, il était répété, il vient d'être répété parce que juste un peu plus haut, au verset 28, il est dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. » Pour bien insister, Marie, elle est l'objet d'une grâce de la part de Dieu. Et il est la forme passive du verbe grec, du grec, indique bien que Marie, elle a reçu une grâce de la part de Dieu. Et souvent, on entend parfois dans les milieux catholiques, Marie pleine de grâce. Mais le texte ne peut pas être vendu comme cela. On ne peut pas dire comme quoi elle serait dispensatrice de grâce. Non, elle a été l'objet d'une grâce. Elle était bénéficiaire d'une grâce toute spéciale qui faisait d'elle une femme bénie entre les femmes, comme le dira Élisabeth un peu plus loin. Alors, toutefois, la vie de Marie montrait un amour pour le Seigneur et un désir de lui plaire, tout simplement parce qu'elle était fiancée tout en étant vierge déjà. Elle avait ce désir de plaire au Seigneur et de nos jours, au verset 27, nous savons qu'elle était vierge. Et de nos jours, une jeune fille qui n'est pas mariée, qui veut se garder vierge, eh bien, c'est probable qu'elle soit parfois la risée de ses collègues, de ses copines, qui veut se garder vierge avant le mariage, qui veut se garder pure avant le mariage. Aux yeux du monde, eh bien, ça peut passer pour ringard, ça peut passer pour ridicule, mais pas aux yeux de Dieu. Et je me souviens d'une jeune fille dont la maman, qui était veuve, allait se remarier. Et ses copines ne croyaient pas que sa mère, eh bien, chrétienne, et son fiancé attendaient d'être mariées avant d'avoir des relations sexuelles. Ses copines ne la croyaient pas. Et ça la mettait elle-même dans un doute. Et il a fallu la rassurer. Et pourtant, c'était bien le cas. Alors, la vie de Marie, oui, elle était exemplaire. Mais elle ne suffit pas à expliquer le choix de Dieu. Et sans être parfaite, on va le voir un peu plus loin, que Marie n'était pas parfaite, elle avait quand même une caractéristique qui ne passe pas inaperçue. Et je vous propose de voir quelle est cette caractéristique. Découvrons-la ensemble. L'ange lui annonce que dans son état de virginité, elle enfantera un fils, et pas n'importe qui, un fils qui sera appelé fils du Très-Haut, et qui peut prétendre au trône de David. Tous les Juifs attendaient le Messie. Joseph, le père adoptif de Jésus, était descendant de David. Ce fils régnera éternellement, c'est-à-dire aussi bien pour toujours dans le temps que dans tout le cosmos, dans tout l'espace, dans le monde infini. Il régnera éternellement, verset 33, rien de moins. Et bien sûr, ce sont là les caractéristiques qui sont celles du Messie, tant attendu, et le nom de Jésus signifiant « Dieu sauve ». Imaginez quand même la surprise de Marie. Quelle va être sa réaction? Et comment est-ce que vous, je m'adresse aux femmes, aux dames, comment auriez-vous réagi si vous aviez été à sa place en entendant cette nouvelle? Marie ne s'y attendait pas. Une nouvelle aussi extraordinaire. Est-ce que vous auriez cru instantanément, comme Marie a cru? Sommes-nous étonnés aujourd'hui de ce que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde? Sommes-nous encore étonnés? C'est vrai que tous ces événements, nous le répétons, nous les célébrons, le monde, les chrétiens en tout cas les célèbrent depuis plus de 2000 ans. Sommes-nous encore étonnés de ce que Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde? Marie était étonnée. D'autant plus qu'elle était vierge. Elle était étonnée, mais on voit la foi de Marie. C'était une femme pleine de foi. Marie n'a pas demandé de signe, quand même, devant un événement aussi important. Pourquoi? Parce qu'elle était elle-même ce signe. Et certainement qu'elle devait connaître cette prophétie du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7,14, une prophétie messianique qui avait été donnée quelques 750 ans auparavant. Ésaïe 7,14, je vous le cite, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et jeune fille, en hébreu, ça veut bien dire une vierge. Alors Marie est étonnée, oui. Et elle ne demande pas pourquoi, elle demande simplement comment. Comment cela se fera-t-il? Et la réponse de l'ange, eh bien, laisse entendre qu'il n'y a pas d'explication humaine. Verset 35, ça se fera par le Saint-Esprit, qui la couvrira de son ombre, mot qui veut dire aussi nuée. Marie, elle est l'objet d'un acte créateur de la part de Dieu le Père qui est à l'origine de tout ce qui existe. Et le même Saint-Esprit qui a fait naître la lumière et qui a fait naître la vie dans les ténèbres, eh bien, donnera la vie dans le sein de Marie. Dieu a créé le monde à partir de rien. Et c'est le même Dieu qui va enfanter Jésus dans le sein de Marie. Alors, une telle réponse de la part de l'ange, ça demande la foi, n'est-ce pas? Ça demande de croire. Et Marie, eh bien, elle a cru. Elle a cru, et imaginez quand même, ça a dû aller vite dans son esprit. Marie, devenir enceinte sans être mariée, peut-être qu'elle s'est dit, mais elle pourrait faire l'objet des racontars. Une grossesse hors mariage, ça se voit au bout d'un moment. Peut-être qu'elle aurait pu être inquiète. Et puis, n'oubliez pas son fiancé. Qu'est-ce qu'allait penser Joseph? Peut-être que toutes ces choses se sont bousculées dans sa tête à ce moment-là. Pas de souci. Dieu s'occupe de tout. Il expliquera à Joseph dans un rêve eh bien, l'origine de la grossesse de sa fiancée. Et ce qui est rassurant, et c'est aussi valable pour nous qui sommes mariés, eh bien, dans un couple, Dieu parle aux deux personnes. C'est bien facile, n'est-ce pas, c'est plus facile de trouver un accord quand on cherche la face du Seigneur, parce que Dieu parle aux deux personnes dans un couple. C'est rassurant. Alors oui, Marie et Joseph, c'est étonnant aussi que l'histoire a mis autant l'accent sur Marie et a mis de côté Joseph. Alors que Joseph, il était quand même le père adoptif de Jésus, et Joseph, il avait la responsabilité du foyer, et pourtant, très vite, eh bien, on ne parle plus de lui, l'histoire ne va pas accrocher à lui. Il va beaucoup s'arrêter sur Marie. Mais l'accent ne porte pas tant sur la virginité de Marie, parce que Marie, d'ailleurs, elle aura des enfants. Elle aura des enfants après Jésus, bien sûr. Elle aura après la naissance miraculeuse de Jésus, eh bien, on peut lire dans Matthieu 13, versets 55 à 56, qu'elle aura au moins 4 fils et des filles. Marie a eu des enfants des enfants avec Joseph, après la naissance miraculeuse de Jésus. L'accent ne porte pas tant sur sa virginité, l'accent porte sur l'enfant qu'elle porte, sur Jésus, qui est le Fils de Dieu, né de Dieu, qui est saint et qui est sans péché. Alors Marie, elle a cru, mais elle avait quand même besoin, devant une nouvelle aussi extraordinaire, d'être confortée dans sa foi. Elle avait besoin d'être fortifiée dans sa foi. Et Dieu sait quand nous avons besoin d'avoir un coup de pouce dans notre foi. On croit, mais il sait quand nous avons besoin que notre foi soit confortée. Nous avons besoin d'aide pour croire. Dieu le sait. Eh bien, il va conforter Marie dans sa foi en lui annonçant une autre nouvelle. C'est qu'il va annoncer à Marie que Élisabeth, sa parente âgée, qui était stérile, elle était stérile et elle était âgée, eh bien, il va lui annoncer qu'elle est enceinte déjà depuis 6 mois. Pour bien lui montrer que rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Alors là aussi, ça a été cogité dans la tête de Marie. Et puis, en entendant cette double annonce extraordinaire, eh bien, Marie, elle va exprimer sa foi. On peut dire qu'elle s'abandonne vraiment au Seigneur. Elle va exprimer sa foi. Elle croit et elle se soumet. Même si elle n'a pas tout compris. Et dans les évangiles, eh bien, Marie n'avait pas tout compris. Dans les événements qui vont suivre, elle va être émerveillée. Elle sera encore dans l'étonnement. Déjà lorsque les bergers viendront lui raconter ce que l'ange leur a dit, en Luc 2, verset 18-19, un peu plus loin, elle sera dans l'étonnement. Elle sera émerveillée en entendant Siméon parler de cet enfant. Quand elle viendra le présenter au temple, Marie sera émerveillée parce qu'elle va entendre que Jésus n'est pas seulement venu pour Israël, mais pour toutes les nations. En Luc 2, verset 32-33. Elle sera étonnée quand Jésus aura 12 ans et qu'il sera en train de discuter avec les religieux en Luc 2, 46-50. Marie n'avait pas tout compris. Elle a eu son cheminement. Elle ne savait pas tout à l'avance. mais elle a cru. Alors, elle a cru, et puis aussi, elle aurait pu se vanter, vous vous rendez compte ? Elle aurait pu se vanter d'avoir été choisie, elle, pour mettre au monde le Messie tant attendu par Israël. Mais regardez sa réaction. Verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et littéralement, le mot « servante » veut dire « esclave ». Esclave au féminin. Marie elle-même se disait servante, esclave du Seigneur. Alors, nous y voilà. La qualité qui la rendait apte à recevoir la grâce de Dieu, eh bien, c'était l'humilité. C'était son humilité. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Ce sont les humbles qui sont l'objet de sa grâce, ceux qui se reconnaissent pauvres. La grâce ne se mérite pas, elle se reçoit. C'est pourquoi c'est une grâce. On ne peut pas la mériter, sinon ce ne serait pas une grâce. Et elle se reçoit comment ? Dans l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui lui fait de la place pour être reçue. C'est l'humilité qui fait de la place dans notre cœur pour recevoir la place, pour recevoir la grâce. Sans lui faire cette place, c'est difficile. C'est difficile de recevoir la grâce. Zacharie, Élisabeth, les bergers, Marie, Joseph, ils avaient ceci en commun, qu'ils étaient humbles. Ils craignaient Dieu. Et Dieu a pris l'initiative de les visiter. C'est aux humbles que Dieu dit « ne crains point ». L'humilité permet de recevoir la grâce de Dieu. Et cette grâce, eh bien, elle va provoquer la foi. Et la foi, eh bien, elle agit. Elle ne reste pas sans rien faire. Elle agit, elle se met en mouvement. Et c'est ce qui va pousser Marie... En entendant cette nouvelle, elle va pousser Marie à se lever, promptement, nous dit le texte, hein, en hâte. Pour faire quoi ? Pour aller rendre visite à Élisabeth. Elle veut vérifier par elle-même. Parce qu'Élisabeth a aussi été l'objet de la grâce de Dieu. Et là, eh bien, on assiste à un besoin irrésistible de communion fraternelle. Un besoin irrésistible de communion fraternelle. Qui va être comblé. Alors oui, la soumission à la volonté de Dieu, risque de nous étonner et de nous émerveiller. Alors justement, voyons maintenant la foi qui est agissante et qui va rassembler les humbles. Deuxième point. Alors Marie, elle a été visitée et saluée par l'ange. Eh bien, à son tour, elle va visiter et elle va saluer Élisabeth. Les salutations. Ne sous-estimons pas l'importance des salutations. Le texte nous dit la même chose. Hein. Enfin, pour Marie, elle va aller voir Élisabeth et elle va la saluer. Et l'importance des salutations aujourd'hui, à l'époque des emails, est-ce que c'est si important que ça ? Moi, ça me fait toujours bizarre de recevoir un mail de quelqu'un, tu parlais des mails tout à l'heure, Pascal, de recevoir un mail de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et puis, dit bonjour, pas de salutation. Il va tout de suite sur le vif du sujet. Au lieu de commencer, il omet de commencer son mail par une salutation. Bonjour, comment vas-tu ? Aujourd'hui, tout va très vite, on communique par mail, n'est-ce pas ? Et ça rapproche, ça devrait en tout cas rapprocher les gens, mais est-ce que ça, pour autant, est-ce qu'une bonne salutation nous ferait pas encore plus plaisir, et nous-mêmes, de donner les salutations ? Et regardez ce que peut provoquer une simple salutation fraternelle dans le récit. Marie, elle n'a pas eu le temps d'expliquer à Élisabeth sa situation. Elle n'a pas eu le temps. Elle a juste salué Élisabeth. Et aux premières salutations, qu'est-ce qui s'est passé ? L'enfant d'Élisabeth tressaille. Et Élisabeth, elle fut remplie du Saint-Esprit. On assiste là à une véritable réaction en chaîne. Qui est-ce qui a commencé ? C'est Dieu. Il a envoyé son ange. L'ange a salué Marie. Marie est allée voir Élisabeth. Elle l'a saluée. Résultat, l'enfant d'Élisabeth a tressailli. Résultat, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Et ne doutons pas que Marie l'était aussi pour porter le Messie. Elle était aussi remplie du Saint-Esprit. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alors c'est le Saint-Esprit qui va pousser Élisabeth à parler à Marie et même à prophétiser sur la bénédiction de Dieu, eh bien, sur elle et sur son enfant. Versets 42 et 43, hein. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Et là, vous remarquerez cette qualité, l'humilité qu'a manifestée Marie. Eh bien, elle se retrouve aussi chez Élisabeth. Et on peut dire que l'humilité répond à l'humilité. L'humilité engendre l'humilité. Et Dieu s'est humilié pour venir, lui le créateur des étoiles, pour venir en petit bébé, naître parmi nous. L'humilité répond à l'humilité, elle est contagieuse. Et on peut dire que l'humilité des deux femmes va entrer en résonance quand les deux femmes vont se rencontrer. Élisabeth, elle réalise la grâce que constitue la visite de Marie, qui porte son Seigneur, hein. Et elle s'humilie, Élisabeth s'humilie devant Marie. Élisabeth affirme que l'enfant porté par Marie est son Seigneur personnel. Et par là, eh bien, elle confirme aux oreilles de Marie la promesse qu'elle a entendue de l'ange. Les deux femmes vont s'exhorter l'une de l'autre. L'humilité répond à l'humilité et la foi répond à la foi. Les deux femmes s'exhortent l'une de l'autre dans leur humilité et dans leur foi. D'une part, eh bien, Marie, elle est confortée dans sa foi en entendant Élisabeth prophétiser à son sujet. Elle avait besoin d'être confortée dans sa foi. Et d'autre part, eh bien, la foi de Marie, c'est un sujet de joie pour Élisabeth qui voit la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Les deux femmes, humbles, s'encouragent par une foi commune. C'est comme si la foi et l'humilité des deux étaient entrées en résonance par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit ici, hein. C'est pas Marie ni Élisabeth, ni le bébé d'Élisabeth qui sont au centre. C'est le Saint-Esprit qui est au centre. Les deux femmes ont été l'objet de la grâce de Dieu. Elles sont remplies du Saint-Esprit, elles vivent une communion fraternelle très forte, de par les mêmes expériences de la miséricorde de Dieu, la même foi, les mêmes espérances et le même amour. Et nous qui avons cru en Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, nous avons reçu le Saint-Esprit comme signe que nous lui appartenons. Et de même que Marie, remplie du Saint-Esprit, avait besoin de voir Élisabeth, remplie elle aussi du Saint-Esprit, eh bien, nous avons ce besoin dans l'Église de nous réunir. Et ce d'autant plus par les temps que nous vivons, n'est-ce pas, avec la pandémie. Nous avons ce besoin de nous réunir. À l'exemple de Marie et d'Élisabeth, eh bien, nous avons besoin de partager dans nos sujets de conversation, d'entendre ce que le Seigneur a fait en chacun de nous et pour nous. J'aime beaucoup ce verset en Malachie 3, verset 16. Je vous le dis, je vous le cite, Malachie 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Et c'est devenu plus difficile. Avec la vie moderne, tout va très vite, on n'a pas le temps. Les familles déménagent, il y a des familles recomposées. Et puis le Covid qui a mis eh bien son Covid dans les relations, qui ont mis des distances entre nous. Donc de là, un besoin plus grand de se retrouver. Alors nous autres qui sommes mariés, eh bien on peut essayer de combler tous les besoins de notre femme, de notre épouse. Mais on s'en vient. Vous savez, moi je suis pratique. Il y a tel problème, allez, telle solution. On va tout de suite essayer. Ça, c'est un problème informatique. Moi, je ne suis pas un grand bricoleur. Mais bon, dans les domaines où, voilà, dans l'informatique, où je peux essayer de voir. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que ce n'est pas des solutions miracles qu'elle attendait de ma part. L'initiative chez nous, les hommes, est venue, mais bien plus tard. On a un moment de prière par Zoom, hein, c'est le dimanche soir. Mais au début, ce sont les femmes qui ont initié ce mouvement. Et il y a déjà quelque temps de ça, cette année. Hein. Et certaines se sont trouvées même des sœurs de prière, parce que le besoin de prier, de se retrouver, de partager est là, d'autant plus mis en évidence par la distanciation causée par la pandémie. Et puis j'ai réalisé que c'est quand c'est bref, d'être ensemble en église et pas seulement en visio, même si on est reconnaissant pour ces moyens qui nous rapprochent quand même et ça permet de garder le contact. Marie et Elisabeth, eh bien, elles ont partagé ensemble dans l'humilité leur foi. C'est humilié devant Marie, et eh bien à son tour, Marie va s'humilier devant l'humilité d'Elisabeth. Elle ne va pas se grandir. Elle va s'humilier dans un cantique qu'elle va adresser à Dieu, son Sauveur, devant Elisabeth. Et dans ce cantique, elle va récapituler tout ce qu'elle a entendu et compris de l'ange et d'Elisabeth, dans une prière de louange à Dieu. Nous aussi transformons nos joies en prières. C'est après avoir entendu les paroles d'Elisabeth, bienheureuse celle qui a cru, verset 45, que Marie va laisser éclater sa joie dans ce cantique, qu'on appelle aussi le même. Le Magnificat, le Cantique de Marie. Donc à partir du verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bien. Il avait donc des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. » C'est-à-dire que Marie, elle est restée jusqu'à l'accouchement d'Élisabeth. C'était encore jusqu'à ce qu'elle arrive à terme. Alors oui, la soumission à la volonté de Dieu, dans la foi, non seulement risque de nous étonner, mais nous pousse à louer Dieu ensemble, dès qu'on la partage. Et Marie, eh bien, elle commence par louer Dieu dans son cantique, pour ce qu'il a fait en sa faveur. Et Marie appelle Dieu son Sauveur, verset 46-47. Son Sauveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie, elle reste humble. Elle reste à sa place devant le Seigneur. Et elle continue de s'humilier malgré la grâce extraordinaire qui lui a été faite. Marie continue de s'humilier. Et elle se nomme une seconde fois servante du Seigneur, pour la deuxième fois. Et elle parle même de sa bassesse, verset 48. Le mot bassesse évoque la culpabilité, évoque l'infériorité. Alors Marie n'était pas parfaite, puisque elle-même dit, elle appelle Dieu son Sauveur. Elle avait besoin d'un Sauveur. Elle n'était pas sans péché, de même que nous tous. Et si elle se reconnaissait pécheresse et avait besoin d'un Sauveur, elle qui a porté ce Sauveur du monde, a plus forte raison. Nous tous, nous avons besoin d'un Sauveur. Et il fallait quelqu'un de saint, il fallait quelqu'un de sans péché pour nous racheter de nos péchés. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus son Fils, Dieu fait homme. Lui qui n'a commis aucune faute acceptera de mourir sur la croix à cause de nos fautes pour nous en libérer et ressuscitera 3 jours après. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde. Alors Dieu a manifesté sa puissance dans la naissance de cet enfant, la naissance miraculeuse. Il l'a aussi manifesté dans la résurrection de Jésus après sa mort. Il a manifesté sa sainteté dans la nature sans péché de cet enfant. Et il a manifesté sa miséricorde dans la mission de cet enfant qui est de sauver tous ceux qui croiraient en lui, dans l'humilité. Et ce sont ceux qui craignent le Seigneur qui peuvent bénéficier de sa miséricorde, de son pardon, verset 50. Alors, dans ce même cantique, on apprend que si Dieu rassemble les humbles, il disperse les orgueilleux, verset 51. Et il a renvoyé les riches à vide. Et Dieu ne renvoie à vide que ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, finalement, et qui n'ont pas de place pour recevoir la grâce de Dieu, qui pensent qu'ils sont autosuffisants. Mais c'est Dieu qui élève les humbles, et ce ne sont pas les hommes. Alors l'histoire, eh bien, elle a élevé Marie, hein, voilà, dans l'histoire de l'Église. Voilà, Marie qui a été élevée. Mais aurait-elle été d'accord que les hommes l'élèvent si haut, elle qui était si humble? Alors certes, toutes les générations la diront bienheureuse, mais comme une femme bénie par les autres femmes, et non pas comme donnant elle-même des bénédictions. Alors peut-être ça vous est arrivé, hein, moi ça m'est souvent arrivé dans des discussions, d'entendre dire « Vous les protestants, vous ne croyez pas en Marie ». Alors je ne sais pas ce que vous répondez, mais en tout cas, c'est bien de remettre la vérité, hein, et d'enlever la confusion. Nous y croyons, bien sûr, parce que justement la Bible en parle. Et nous croyons en sa virginité, parce qu'elle est devenue enceinte, étant vierge, et parce que la Bible nous le dit. Et nous la croyons bienheureuse pour avoir porté le Sauveur du monde, pour avoir été choisie. Mais bienheureuse ne justifie pas de lui rendre un culte. Et nous ne l'adorons pas. Parce que le premier commandement dit bien de n'adorer que Dieu seul. Ce que rappelle Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 10. Marie a eu un commencement par Jésus. Jésus l'a créé, lui, l'univers. Alors, en conclusion, eh bien, oui, le péché et la mort sont entrés dans le monde par une femme, Ève. Eh bien, ce sont deux femmes, Élisabeth et Marie, soumises à Dieu, remplies du Saint-Esprit, porteuses de vie, qui ont été utilisées par Dieu dans son plan de salut, et qui sont devenues les premières femmes prophètes du Nouveau Testament. Comment tu y es pris, Seigneur? Comment tu avais préparé ton plan, Seigneur? Comment tu as envoyé ton ange pour préparer la venue de ton Fils, Seigneur? Comment tu as utilisé ces deux femmes, Marie et Élisabeth, Seigneur, pour être porteuses de l'une de celui qui allait préparer la venue de Jésus et de l'autre, qui était effectivement, qui est notre Sauveur. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu as manifesté ta grandeur, tu as manifesté ta puissance, ta miséricorde, Seigneur, ton amour pour nous. Grâce à toi, Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu, Seigneur, ce que on ne pouvait pas avant, à moins de passer par tout le protocole, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu t'es incarné, c'est grâce à ton incarnation, grâce à ta mort sur la croix pour nous, que nous pouvons nous approcher de Dieu le Père. Seigneur, nous voulons nous réjouir en Dieu. Marie s'est réjouie en toi, toi qu'elle a appelé son Sauveur. Tu es notre Voilà, je ne sais pas si, je n'ai pas réfléchi à un cantique, mais si quelqu'un va penser à un